Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, mon invité va vous apaiser grâce à sa poésie tranquille. Vous l'aimez tous, j'en suis sûr. Philippe Delerme revient dans La Voix est libre aujourd'hui. Ensuite, roman culte, bien sûr, Le Grand Maulne, c'est pour faire plaisir à Philippe Delerme. Et puis moi, j'adore aussi ce bouquin. Visite de bibliothèque, cette semaine, nous partons chez Maureen Dor, l'animatrice télé devenue éditrice. Et chez elle, il y a notamment toute une collection de pop-up, vous savez, ces livres qui se déploient quand on les ouvre. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, Saint-Mandé aujourd'hui, chez Marie-Ève Charbonnier. Et ce grand enfant de Victor Delande fermera la boutique avec son roman Jeunesse. Pas un roman d'ailleurs aujourd'hui, ce sont des lettres d'amour, vous verrez. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. C'est comme un réflexe, Philippe Delerme publie un nouveau livre, hop, je l'invite. Et il a la gentillesse parfois d'accepter. Pour moi, je le sais, ce sera un moment agréable. Je vous le dis, c'est très agréable, une interview, c'est-à-dire une rencontre avec Philippe Delerme, exactement comme vous l'imaginez, si vous ne l'avez jamais croisé. Bon, moi, c'est vrai, j'ai de la chance, je passe du temps avec les écrivains. Parfois, je suis un peu tendu parce que je connais mal l'auteur. Souvent, je suis ravi parce que j'ai aimé le roman. Parfois, je suis déçu, ça arrive. Avec Philippe Delerme, j'y vais, comme je vais voir, allez, un de mes oncles, que j'aime bien. Pas de tension, pas de piège, ça va être un bon moment. Bonjour Philippe Delerme.
Bonjour.
Vous publiez La vie en relief au Seuil. Et alors, vous m'avez confié que c'était quand même une sortie un peu étrange, évidemment. Qu'est-ce que ça change pour vous, cette ambiance étrange?
Je me rends compte que ça change tout, en fait, en arrivant à Paris, en passant une semaine comme ça pour rencontrer les médias. D'habitude, c'est un grand moment de plaisir pour moi, c'est vrai. C'est vrai que, bon, après beaucoup d'attentes, dans ce qui me concerne, de savoir qu'on est un petit peu attendu, qu'il y a des gens qui ont envie de vous faire parler, de vous rencontrer, avec qui on a noué des liens un petit peu plus profonds au fil des années. C'est une joie, bon, qui devient un peu une lassitude quand ça dure trop, mais qui est vraiment une joie au début. Cette année, je me rends compte qu'il faut instiller au milieu de tout ça une espèce d'inquiétude, l'attente, comme ça. Et ça change sacrément les choses. C'est vrai que c'était une impression un petit peu bizarre.
Puis vous avez ce masque. Voilà. Qui vous couvre le visage. Alors, ouais. Je ne sais pas, évidemment, ça m'étonnerait que vous en parliez tout de suite, que vous nous fassiez un beau texte intitulé Le Masque, tout de suite. Ce sera pour dans 20 ans, peut-être, parce que vous n'aimez pas trop être sur le coup immédiatement.
C'est gentil d'imaginer que dans 20 ans, je pourrais écrire encore.
Mais ça doit vous inspirer quand même, ça.
Oui, c'est assez bizarre. Et c'est en même temps, c'est comme une espèce de politesse collective qui est de plus en plus présente. Et qui n'était pas si évidente au départ et qui maintenant est devenue une habitude, mais qui est aussi une habitude dont on sait qu'elle sépare les gens, qu'elle les sépare des rapports les plus naturels, qu'elle les sépare dans leur famille, qu'elle fait passer à côté parfois de choses qui ne reviendront pas. Moi, j'ai des petits-enfants donc, qui commencent à être préadolescents. Je me rends compte qu'il y a des échéances peut-être de la vie qui ne repasseront pas. Et ça donne un petit peu quand même une mélancolie à la tonalité d'ensemble, on va dire.
Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, vous créez une proximité immédiate avec vos lecteurs. Vous avez ce talent-là de nous faire penser qu'on est amis quand on vous lit. C'est un de vos objectifs conscients quand vous écrivez, ou c'est passé comme ça, mais vous l'avez remarqué, ou pas?
Non, je suis très très heureux que ça se soit passé comme ça. Mais dans mon cas, c'est une chose dont je ne me suis pas blasé du tout, parce qu'elle est venue tellement progressivement. Et suivant tellement d'attentes, il y a eu quand même 10 ans d'envoi par la poste de refus quoi, de manuscrits. Puis après, il y a eu 15 ans aussi de publication dans un anonymat presque complet.
On va en parler tout à l'heure.
Et donc, quand le public vient, tout d'un coup, alors on sait que bon, les grands succès, comme celui de la première Grange de Bière, sont toujours liés aussi à une forme de malentendu. Il y a des gens qui viennent vers vous qui ne sont pas spécialement conçus en fait, pour venir vers vous. Mais parmi ceux-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve aussi les gens qui deviennent un peu des fidèles, des amis, des gens qui ont une idée précise de ce que vous pouvez leur apporter. Et donc, c'est vrai que ça, c'est profondément gratifiant pour un écrivain. Et c'est vraiment très important pour poursuivre la route de savoir que voilà, vous avez cette espèce de chaleur humaine que que moi j'adore par-dessus tout. Bon, j'aime que les gens entendent, je suis un petit peu moqueur aussi dans la vie, mais je suis moqueur qu'avec les gens que j'aime bien, par exemple. Et c'est vrai que La Tendresse, c'est une chanson qui m'a beaucoup touché pendant la pandémie, parce qu'il y a eu un clip magnifique sur la chanson de Bourvil, La Tendresse, enfin la chanson que chantait Bourvil, La Tendresse. J'ai trouvé ça assez émouvant de penser que c'était une époque aussi où on pouvait avoir envie de ça à nouveau. Et les livres, bien sûr, nous apportent ça, cette chaleur.
Et est-ce que ce n'est pas pénible parfois, justement à cause de cette proximité-là que vous créez, malgré vous, mais content de le faire, des lecteurs qui viennent vous voir, qui sont peut-être un peu trop familiers, qui tout de suite vous tapent dans le dos, presque vous claquent la bise. Ça arrive, c'est pénible ?
Très peu, en fait. Très, très peu. C'est assez particulier parce que, même si je sais que ce rapport est là, enfin, voilà, on sait bien que je ne suis pas quelqu'un qui impressionne et qui maintient à distance. Bon, puis après, c'est aussi un petit peu dans le jeu social. Moi, j'ai passé toute ma vie à essayer de mettre en confiance des enfants et des adolescents. Donc, ça serait un petit peu paradoxal que moi-même, je sois distant et froid et voilà, et sarcastique. Mais en même temps, je trouve que les gens sont extrêmement discrets dans ce genre de manifestation. Et je peux comparer avec les réactions qu'a Vincent, puisque mon fils fait de la chanson. C'est assez différent, le rapport qu'on a. Je pense qu'on vient parler avec un chanteur avec plus de familiarité qu'un écrivain. Moi, c'est presque toujours, je ne veux pas vous embêter, juste vous dire que, et puis ça glisse vite. Enfin, c'est presque toujours comme ça, et c'est bien.
Alors, c'est un recueil de textes courts, avec des considérations sur la vie et le monde qui vous entoure. On va rentrer dedans, mais il n'y a pas de titre pour chaque chapitre. Pourquoi ?
Ah, c'est vrai, c'est la démarche est assez différente de celle de mes recueils de textes courts, justement, parce que j'avais envie d'un vrai regard sur la vie dont l'idée me suit depuis 4 ou 5 ans. C'est une sensation que j'avais, une sensation assez paradoxale, c'est-à-dire que d'une part, sentir que l'on prend de l'âge, j'ai 70 ans aujourd'hui, cette année, et en même temps, sentir que bon, le corps vieillit, qu'on a bien sûr une souplesse qui est beaucoup moins grande, que l'on s'agace aussi des choses, quand les choses deviennent rétives, un petit peu hostiles. Et en même temps, à l'intérieur de moi, je sentais une forme, non pas de sérénité, mais d'amplitude, l'impression comme ça de pouvoir saisir par moments les choses à la fois du présent et celles du passé, non pas additionnées, mais multipliées, d'avoir l'impression que la vie était un peu en relief. Ouais.
Et pour multiplier, ça nécessite de ne pas faire trop de coupures entre chaque, c'est pour ça qu'il n'y a pas de titre ?
Parce que oui, il n'y a pas de coupure, parce qu'en fait, c'est une façon d'ouvrir la porte de chez moi, de faire pénétrer dans l'intimité des gens que j'aime aussi. Et dans ce livre, il y a beaucoup de ma compagne, de la femme de ma vie, Martine, et il y a beaucoup de mon fils Vincent, et voire de sa compagne Virginie aussi, et puis de mes petits-enfants Sacha et Simon, qui tiennent une grande place dans ma vie. Je ne pouvais pas ne écrire là-dessus, aller dans le tissu même de ma vie, sans évoquer mon rapport avec les gens que j'aime, qui est fondamental chez moi. Et donc, il y a forcément un fil conducteur qui ne pousse pas au découpage en textes séparés.
Alors, on parle aussi beaucoup du passé dans ce livre, mais sans qu'on sente une nostalgie, en tout cas au sens du regret d'un temps révolu. Moi, j'ai rien contre d'ailleurs, hein, je le suis un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne donnez pas l'impression dans ce livre-là d'être dans le « Ah, c'était mieux avant ». Et en fait, je me disais ça en lisant le livre. Et à la toute fin, la toute dernière page, je tombe sur ces mots qui résument assez bien. « Je n'ai pas l'impression d'avoir été enfant, adolescent, homme d'âge mûr, puis vieux. » Je suis à la fois enfant, adolescent, homme d'âge mûr et vieux. C'est sans doute un peu idiot, mais ça change tout.
Cette phrase-là, je l'ai trouvée juste à la fin. C'est parfois curieux. Je pense que les écrivains, souvent, se rendent compte de ce qu'ils ont fait quand ils terminent un livre ou plusieurs livres. Je pense que Balzac ne s'est pas rendu compte qu'il écrivait la comédie humaine quand il a commencé, mais il s'est rendu compte au fur et à mesure des tomes que c'était la comédie humaine qu'il était en train d'écrire. Ou bien, je ne sais pas, Flaubert, quand il écrit l'éducation sentimentale et qu'il trouve dans l'avant-dernier chapitre cette musique incroyable qui consiste à dire « Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots ». On a l'impression que les 450 pages qui viennent avant ont été écrites juste pour la jubilation d'avoir trouvé ça, de pouvoir se dire « Tiens, voilà, j'ai raconté tout cela, puis après, il voyagea ». C'est magnifique. Et c'est une espèce de récompense, comme ça, d'avoir un peu bâti sa maison de ses propres mains. Et d'un coup, on met un épi de fêtage sur le toit, quoi. Donc, c'est un peu ça, oui.
Vous voulez une glace, Philippe Delerme ?
Ah oui, ça, j'ai commencé par ça, parce que quand on me demandait « Mais qu'est-ce que tu entends exactement par la vie en relief ?» j'avais un peu de mal, en fait, à dire ce que c'était. Et souvent, je prenais cet exemple, qui est en fait le premier texte
de... Bougez pas, on va chercher Glacier, on revient dans un instant. Parfum plombière, à tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue avec Philippe Delerme, je suis bien content, et son nouveau livre, La vie en relief, toujours au seuil. Philippe Delerme, vous êtes toujours avec nous, on parlait tout à l'heure des parfums de glace, parce qu'il y a un texte consacré à ce sujet. Pour vous, praliné, vanille, chocolat, ce sont des parfums de vieux, mais moins quand même que plombière, qui est rare maintenant hein, comme parfum,
oui, on trouve plus
c'est amande, kirsch, fruits confits. Ouais. C'est vrai que c'est dégueulasse. Vous parlez de votre enfance et vous dites que les vraies bonnes glaces, elles étaient à l'eau et au citron ou à l'orange. Mais aujourd'hui alors ?
Ben aujourd'hui, c'est amusant parce qu'en fait, il y a une espèce de sophistication des parfums de glace qui fait qu'on va de plus en plus vers des espèces de camailleux raffinés qui sont dans des tons sable ou, voilà, ou marron glacé. Glace spéculoos, glace caramel au beurre salé, glace pain d'épices, etc. Et souvent, les gens un peu âgés, comme moi, prennent ce genre de parfum qui leur semble justement quelque chose d'un petit peu précieux, raffiné, agréable. Et moi, je vais aussi vers ces parfums-là, souvent. Et alors, ce qui se passe, assez curieusement, c'est que j'ai l'impression quand même d'avoir gardé en dessous le goût que j'avais pour les premières glaces qui m'ont fait vraiment envie. Mais moi, je suis né en 50 et il n'y avait pas encore beaucoup d'Esquimaux, notamment. Je me souviens très bien que l'épicier, quand je passais en venant du lycée, j'avais fait une partie de foot et que j'étais transpirant. Il y avait des bâtonnets, je me souviens, 35 centimes, et c'était juste orange et citron. C'était souvent orange et citron, comme par exemple dans les sodas, il y avait du pchit orange et du pchit citron, mais il n'y avait pas 5000 parfums. Et il me semble que voilà, ma soif de glace a gardé cette tonalité-là et qu'il y a une espèce de perfection du bâtonnet avec de l'orange et du citron qui est restée pour moi la chose la plus forte. Mais il me semble que je ne l'ai pas perdu. Ça, c'est une façon aussi de répondre à ce que vous disiez à propos de la nostalgie. J'ai l'impression que ce que j'ai connu, en fait, je l'ai toujours, quoi, complètement. Et il me semble sentir vraiment la façon dont la glace, à la fin, devient juste un glaçon comme ça, collé sur le bâton, et puis qu'on peut lisser comme ça à l'infini. Et curieusement, je ressens cette sensation d'orange quand je prends du caramel beurre salé.
Et vous disiez tout à l'heure que c'était un peu la définition de ce que c'est que la vie en relief, le titre de votre livre, qui est un petit peu énigmatique, mais on le voit bien en même temps ce que c'est, et quand on essaye de penser à ce que ça peut vraiment dire, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Oui. En quoi cette glace à l'eau peut être un bon exemple ?
C'est un exemple qui n'est pas un bon exemple tant que c'est pas écrit, en fait. Parce que chaque fois que j'ai essayé de le dire, je me rendais compte que ce n'était pas tout à fait
non,
ça.
Non, mais de toute façon, c'est comme pour tous les livres, il vaut mieux le lire hein, pour comprendre.
En fait, ça s'est passé un peu comme ça. Et j'ai trouvé quand même une bonne illustration de ce que j'entendais par vie en relief. C'était peut-être la première minute d'un match de foot aussi, par exemple. Parce que là, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de magique dans la première minute d'un match de foot où toute la planète, quasiment, en tout cas, des centaines de milliers de gens partagent le même instant. Et en le vivant en même temps, complètement différemment. Et moi, j'adore par exemple aller dans un café quand je suis à Paris pour regarder un match de foot dans une salle de café. Mais j'adore encore plus regarder avec mon fils Vincent et mes petits-enfants. Et je me rends bien compte que Sacha et Simon, et mes petits-enfants, et eux, ils deviennent plutôt Kylian Mbappé quand ils regardent la première minute. Mais cela dit, moi, j'ai l'impression d'avoir, dans cette première minute, toutes les parties que j'ai faites quand j'étais gosse et tous les matchs auxquels j'ai assisté depuis et que j'ai joué, parce que j'ai joué aussi au foot. Mais en même temps, je deviens un peu quand même aussi Kylian Mbappé. Et ça peut être grâce à la présence de ceux qui deviennent Kylian Mbappé. Quoi.
La vie en relief. Vous parlez de la barbarie des gymnases aussi, une odeur de sueur et de chaussettes, qui est une sorte de madeleine inversée. C'est pas très agréable comme sensation.
Non, et c'est vrai que globalement, je suis plutôt un minimaliste positif. C'est le titre d'un essai qu'on a écrit sur moi et qui est assez juste, parce que je ne choisis pas forcément les choses les plus épouvantables ou les plus dégueulasses dans la vie. Mais pour autant, c'est vrai que je suis fait aussi de ces attentes un peu nauséeuses comme ça, dans des endroits où on a l'impression qu'on perd sa vie avec une hostilité. Enfin, moi, j'étais tellement nul. J'aimais beaucoup le sport, mais j'étais nul en gymnastique. Je n'ai jamais été souple. Puis je trouve que ce monde comme ça du gymnase, avec les couleurs même du gymnase, les fenêtres un peu glauques, tout ça, c'était symbolique d'une espèce de malaise que j'ai ressenti et que j'ai retrouvé assez récemment, en accompagnant quelqu'un que j'aimais bien dans les dernières années de sa vie, notamment dans un EHPAD. Et j'avais l'impression d'être encore dans mon gymnase en étant dans l'EHPAD. Prisonnier d'une lumière comme ça, qui vous prend et qui vous tient, et où il n'y a pas d'issue, en fait.
Parfois, au contraire, vous êtes très libre, et notamment tous les mois de juin. Vous dites que vous n'aurez jamais votre bac, alors que vous l'avez eu il y a quelque temps.
Mais... quelques temps. En 69, monsieur.
Mais
une
moi,
bonne
je
année.
Me dis, je vous lis comme ça, vous parlez donc de ce mois de juin où vous avez passé votre bac et vous êtes persuadé que vous ne l'aurez pas et ça vous crée une sorte de sensation étrange et tous les mois de juin, ça vous la rappelle. Mais je me suis dit, bon, bah, ça doit être compliqué tous les mois de juin pour lui parce que ce n'est pas agréable comme sensation. Vous, au contraire, ça vous fait plaisir cette sensation.
Ah oui, c'est vrai que bon, les êtres humains sont pleins de contradictions, mais moi, en tout cas, j'ai toujours eu le sentiment que la peur de quelque chose donnait davantage de prix à ce qu'on pouvait avoir. Et c'est vrai que cette peur du bac, je l'avais parce que j'avais des raisons objectives de redouter le bac, mais elle était liée aussi à une façon de profiter de l'air des matins de juin, du beau temps avéré. Bon, elle suivait la deuxième semaine de Roland-Garros. Enfin, il y a beaucoup de lycéens qui ont connu ça aussi, de mélanger la peur des résultats scolaires au match de Roland-Garros qui se poursuivent tard comme ça, à 20h au cinquième set. Et c'est vrai que ça, vraiment, je l'ai encore. Et ça m'arrive d'en rêver parfois que je rate mon bac, mais surtout, même quand je dors pas, j'ai l'impression que le bac est encore à passer. Et ça, je considère que c'est vraiment une chance de pouvoir sentir les choses comme ça. Je reconnais que c'est à la limite, c'est proche de la débilité mentale, mais en même temps, c'est...
Mais parce que vous savez que vous l'avez eu.
Parce que je sais que...
C'est une peur à peu de frais.
Oui, c'est une peur à peu de frais, sûrement, c'est une coquetterie,
c'est
en fait.
C'est une montagne russe, quoi. On ne risque rien, mais on se fait un peu peur.
Oui, exactement. Exactement. C'est une petite montagne russe du mois de juin.
J'ai un côté poète, quand même, hein, c'est vrai.
Bah oui, tout à fait.
Vous parlez de la première fois où vous avez été édité, et ça, vous m'en aviez déjà parlé dans une précédente émission, mais vous dites, parce que vous dites quelque chose de très intéressant sur les refus d'éditeurs au début, et votre refus à vous d'être édité sans eux. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, parce que c'est en fait, au bout d'un moment, quand les gens autour de vous savent que vous écrivez, et puis vous ne les embêtez pas avec des manuscrits, mais ils savent que ça tient une place importante dans votre mentalité, bon, ils finissent par se dire, mais bon, tu ne vas pas continuer à écrire comme ça infiniment, pourquoi tu ne publierais pas un compte d'auteur ? Puisque c'est une chose qui est possible aussi, qui se fait souvent, de publier comme ça en payant ce que l'on a écrit. Ça vaut mieux d'ailleurs de publier compte d'auteur carrément en payant avec ses sous que de se faire arnaquer par une de ces maisons d'édition qui prétendent éditer et qui vous demandent de l'argent en même temps. Et puis en même temps, le livre, vous ne le voyez jamais, etc. Ouais. Ça, c'est souvent une arnaque. J'ai connu ces propositions d'arnaque. Et puis voilà. Et donc, et c'est vrai que j'ai même un mauvais souvenir comme ça d'une fois où quelqu'un m'avait dit à la cantine au collège, mais pourquoi tu... Pourquoi tu ne veux pas du compte d'auteur ? Pourquoi tu méprises le compte d'auteur ? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une bonne question, mais bon, un peu injustifiée, parce que pour moi, c'est pas ça la règle du jeu, quoi. La règle du jeu, elle est souvent faussée. C'est vrai qu'il y a des tas de livres qui sont stupides, qui sont publiés. C'est vrai qu'il y a des tas de combines, de copinages qui font qu'on peut publier un livre. On le sait bien, je pense que vous êtes aussi bien placé que moi pour le savoir. Mais en même temps, ça ne change rien. Quand on a accepté de jouer ce sport-là, on accepte la règle du jeu. La règle du jeu, c'est que quelqu'un un jour dise « Voilà, j'ai envie de prendre un risque sur vous parce que vous avez du talent. » Et tant pis si c'est infini, tant pis si c'est long, ça se fait comme ça.
J'ai encore 12 questions, mais ça va décidément trop vite. En revanche, je veux absolument que vous nous racontiez l'histoire de Caroline et Frida.
Ça, c'est un truc vraiment la chose la plus étonnante qui me soit arrivée au niveau des rapports de lecteurs.
Que vous racontez dans le livre, bien sûr.
C'est de trouver comme ça, devant chez soi, dans ma maison en Normandie, un soir, on revenait d'une balade avec Martine, de voir deux jeunes filles blondes, comme on peut imaginer les Suédoises, qui sont en train d'essayer de mettre une grande enveloppe dans la boîte aux lettres. Et en fait, donc... Bon, parce qu'elle ne voyait qu'il n'y avait personne. Et en fait, on les surprend comme ça. Et puis, on se met à parler. Elle parle un excellent français. Et il se trouve qu'elles arrivaient de mon collège. Je venais de prendre ma retraite. Elles avaient demandé à la concierge si on pouvait savoir où j'habitais. Et en fait, elles venaient me rencontrer ou me laisser une très longue lettre qui était incroyable. Et on les a fait rentrer. Puis, bon, Martine a proposé un thé. On a parlé. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ces deux jeunes filles... était venu à Paris à cause de moi, ou grâce à moi, je ne sais pas, mais à cause d'un livre avec mon personnage de M. Spitzweg, qui est obsédé par Paris, et donc qui était traduit en suédois, et qu'elles avaient découvert en Suède, et qui leur avait donné envie de Paris, et donné envie d'aller, alors, en venant travailler à Paris.
Mais voilà, même... pas juste en touriste.
Non, pas en touriste.
Elles sont
installées à Paris, elles ont trouvé des petits boulots, et Il y en avait une qui travaillait chez Amorino, qui faisait les glaces, vous savez, avec les pétales et tout ça. Et donc, elles ont fait un pèlerinage incroyable. Je parle d'un aveugle dans les couloirs du métro. Elles sont allées rencontrer cet aveugle dans les couloirs du métro. Ça paraît incroyable.
Elles attendent les dimanches que la pluie tombe pour être vraiment dans le texte.
Oui, c'est ça, exactement. Et c'était une responsabilité incroyable, en plus, de penser ça. Moi qui ai mis si longtemps comme ça, avant de réussir à publier, pouvoir avoir ce témoignage-là, je ne l'attendais absolument pas. Parce que franchement, dans mes rêves les plus fous, j'espérais être publié d'abord, peut-être un jour être publié une fois dans une collection de poche, puisque ça c'est quand même aussi un but quand on est écrivain, de passer en poche, parce que tous les livres ne passent pas en poche. Mais être traduit, déjà, ça ne faisait pas partie de mes fantasmes, mais pouvoir changer la vie de gens dans un autre pays, alors ça c'est un truc...
Incroyable. Ouais. Vous, c'est Léoto aussi qui a changé votre vie, d'ailleurs vous le lisez tous les jours, mais un des premiers romans que vous avez lu, c'est Le Grand Maulne, et on va en lire un extrait dans un instant.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est livre, toujours avec Philippe Delerme. La vie en relief, c'est son nouveau livre. Au seuil, il est l'heure du livre culte maintenant, et j'ai choisi Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Il y a un trait d'union entre Alain et Fournier parce que c'est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est Henri Alban Fournier. Un livre qui compte beaucoup pour vous, Philippe Delerme.
Ah oui, énorme aventure pour moi que de découvrir ce livre. J'ai découvert dans une solitude complète, puisque c'était un dimanche où mes parents étaient allés voir des amis. Mes frères et ma sœur, plus âgés, n'étaient plus dans la maison. Et moi, j'ai lu Le Grand Maulne toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir et en entier. Et en ouvrant comme ça le livre, tout d'un coup, j'ai l'impression que ce livre s'adresse à moi, parce que le narrateur du Grand Maulne, François Sorel, il a une activité le soir comme ça qui paraît un petit peu mélancolique. C'est-à-dire qu'il lit les livres de prix à l'avance. Et moi, c'est une chose que je faisais. Mon père me disait, les livres de prix, je veux bien que tu les lises, mais en tout cas, j'ai fait attention à ce que... On ne voit pas du tout qu'ils ont été lus. Et moi, ce qui était étonnant...
Livres de prix, ce sont les livres qui étaient offerts aux élèves des méritants.
Oui, vous avez raison, il faut le dire, puisque c'est une chose qui n'existe plus guère, qui ne se fait plus du tout, je pense. Et en fait, c'est vrai que cette impression de devenir quelqu'un comme ça, François Sorel, a été renforcée par la phrase « Mon père, que j'appelais Monsieur Sorel comme les autres élèves », puisque j'appelais aussi mon père Monsieur Delerme comme mes autres élèves, ce qui d'ailleurs était un petit peu métaphorique d'un éloignement que j'avais aussi avec mon père. On peut après tout être très copain avec son père et l'appeler Monsieur Machin. Moi, j'avais une certaine distance avec mon père et cette distance, elle était éminemment renforcée par le fait de l'appeler Monsieur Delerme comme ça. C'était une image de l'instituteur qui est à travers mon père. Et puis ce livre, curieusement, quand on voit François lire ses livres comme ça de prix dans le cabinet des archives, plein de mouches mortes d'affiches battant au vent, je me souviens plus tard, j'étais en faculté de lettres à Nanterre, d'un prof de fac montrant le côté misérabiliste en fait, de sa description enfantine. Sauf que le prof en question, il se plantait quand même complètement, puisque la phrase qui suit dans Le Grand Maulne, c'est « Mais quelqu'un m'a enlevé à tous ses plaisirs d'enfant paisible ». Et qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'apparemment, le cabinet plein d'affiches de mouches mortes et d'affiches battant au vent, c'est plutôt, ça paraît lugubre, mais pas du tout, parce que c'est complètement transfiguré en fait, par la lecture et le fait de s'embarquer dans une aventure, et que le pouvoir de la lecture quand on est enfant, c'est le bonheur absolu et ça efface tout ce qu'il peut y avoir autour de soi.
Vous avez plusieurs éditions, Poche, Grand Format, Pléiade, du Grand Maulne.
Du Grand Maulne, je n'ai pas...
Dédicacé.
Je n'ai pas encore acheté la Pléiade, je trouve ça étonnant que le Grand Maulne ait pu passer en Pléiade. Ça fait plus de 100 ans après sa publication, c'était 1913, donc voilà, 107 ans après. Voilà, il faut être patient parfois en littérature.
Mais vous avez votre exemplaire à vous de quand vous étiez jeune?
Oui, l'exemplaire illustré d'ailleurs qui était dans une collection de livres pour la jeunesse. Souvent, on y glissait comme ça des chefs-d'œuvre de la littérature abondamment illustrés. Et donc, c'est vrai que pour moi, les illustrations de cette collection-là, elles font partie de... C'est une collection, la collection Rouge et Or, qui est très connue, et ça fait partie du charme du livre. Oui.
C'est vrai que ça fait partie de ces monuments incontournables, un peu intimidants à force d'être mythifiés, mais à tort, parce que c'est un roman de jeunesse, c'est un roman vivifiant, un roman sur la liberté. liberté, publié en 1913, c'est un adolescent qui raconte François Sorel, le fils de l'instituteur dans un petit village du Cher, Sainte-Agathe. Un jour arrive un jeune homme un peu plus vieux, c'est Augustin Maulne, que l'on surnomme le Grand Maulne. C'est une sorte de grand frère pour François. Ce Grand Maulne est un peu rebelle à l'autorité. Un jour, il emprunte une petite voiture à cheval et il se perd dans la région. Son escapade va durer 3 jours et pendant ces 3 jours, il tombe par hasard sur un vieux domaine, une sorte de vieux manoir en ruine. Mais beaucoup de gens sont là, déguisés très bizarrement. Il comprend que c'est un mariage. On attend les mariés et pendant ce temps-là, on s'amuse. Il décide de s'incruster un peu. Il rencontre à cette occasion une jeune fille magnifique, mais très mystérieuse. Coup de foudre, je vous passe les détails, mais on apprend bientôt que le mariage n'aura pas lieu. La fiancée s'est enfuie. Maulne rentre à Sainte-Agathe, mais il n'a qu'un seul but. Retrouver ce domaine perdu et bien sûr la jeune fille dont il ne connaît que le nom. On écoute la première page, lue par Philippe Dussault.
Chapitre 1er, le pensionnaire. Il arriva chez nous un dimanche de novembre. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitions les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais Monsieur Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur où l'on préparait le brevet d'instituteur et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge avec 5 portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg. Une cour immense avec préau et buanderie qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers la gare à 3 kilomètres. Au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie. Demeure d'où partir et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures.
À suivre, visite de bibliothèque. Cette semaine, nous partons chez Maureen Dor. On va regarder sa collection de livres pop-up notamment. C'est pour tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre de Maureen Dor. L'animatrice télé est devenue éditrice et elle est passionnée par les livres. Sa maison en est remplie. Allons-y. Bonjour Maureen Dor.
Bonjour.
Je rigole parce qu'on vient de commencer la visite avant même d'allumer les micros, c'est dommage.
Bah oui, bah, on va la recommencer.
On a trop de choses à se dire. Oui. On est chez vous, merci de nous accueillir, pas très loin de Paris, dans une maison. Et alors la difficulté, enfin plutôt l'intérêt, c'est qu'il y a des bibliothèques à chaque étage. Au sous-sol,
près, oui.
Au rez-de-chaussée, au premier. Et même là, on est au premier, il y a 2 bibliothèques dans des pièces différentes, même 3 éventuellement.
Oui, parce qu'en fait, je trouve ça très compliqué de faire une bibliothèque. Si on laisse trop de place au début pour les prochains livres, ça fait vide et c'est moche. Donc on se dit, ben, faut pas la faire trop grande pour qu'elle reste pas pendant 40 000 ans à moitié vide. Donc elle se remplit, mais si elle se remplit trop vite, c'est hyper frustrant quand on continue à acheter des bouquins. Donc en fait, j'essaye de les classer plus ou moins. Là, c'est la bibliothèque qui est entre guillemets de beaux livres. Enfin, c'est pas les poches, quoi.
Et vous m'avez dit, c'est rare que vous aviez tout lu dans cette bibliothèque.
Alors, ah bah oui, évidemment.
Dans une bibliothèque, il y a plein de bouquins qu'on n'a pas encore lus.
Mais non, moi ça me paraît évident d'avoir chez soi que des livres qu'on a déjà lus. Ils viendraient d'où, les bouquins qu'on n'a pas lus dans sa bibliothèque?
Qu'on nous a offerts, qu'on lira plus tard. Il y a beaucoup de gens qui les conservent, moi y compris. Je me dis, tiens, il est là, je sais qu'il est là. Un jour, j'y viendrai. Pour l'instant, j'ai pas
envie. Oui, mais ça, c'est dans ma chambre.
Ah, d'accord.
Là, les livres que je n'ai pas encore lus, ils sont, pour le coup, ils sont empilés les uns sur les autres. Et là, voilà, là, c'est ceux qui n'ont pas encore été lus.
Mais là, on est dans une pièce un peu transitoire. Quand on monte l'escalier, il y a cette pièce-là avec la bibliothèque et au centre. Une sorte de
chaise longue
qui a l'air très confortable.
Hyper
pour confortable,
si vous pouvez y aller.
Je vais essayer.
Allez-y. Elle est...
Ah oui, c'est bien. Mais on ne s'endort pas quand on lit
non,
là-dedans.
Non, on ne s'endort pas du tout. Et puis on peut mettre.
Ah oui,
ça.
Carrément.
Voilà. Et là, on est au top. Et vous tendez la main, et vous avez les BD.
C'est ça ce qui est
comme
bien.
Comme ça, ouais. Voilà. Hop.
Et on peut même poser éventuellement un café sur la
Évidemment,
bibliothèque.
Évidemment, café, pourquoi un café?
Un café ou autre, avec un peu de calva dedans, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, donc, vous avez lu tous ces livres-là, il y en a,
oui.
Je ne sais pas combien il y en a, mais en tout, là, dans toute la maison, j'ai dû en voir peut-être 3000, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, ce n'est pas non plus énorme. Hein.
Non, mais enfin, déjà. Et alors, il y a beaucoup de choses que j'aime bien, on va être très amis, et notamment un auteur qui n'est pas hyper connu, et ce n'est pas un romancier, mais c'est Oliver Sacks, oui. Qui est un neuroscientifique et qui a écrit beaucoup de choses, et notamment L'éveil, qui a donné le film avec Robin Williams, et son livre le plus célèbre, le best-seller, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Vous pouvez nous en parler ?
Mais en fait, donc, Oliver Sacks, donc, comme vous l'avez dit, est un neurologue, neuroscientifique. Donc, en fait, il travaille sur le cerveau et il raconte des histoires à partir de patients qu'il a rencontrés qui sont arrivés chaque fois avec un traumatisme crânien qu'ils ont eu et qui a touché une partie de leur cerveau. Et là, ce que Oliver Sacks nous fait comprendre, c'est que notre cerveau étant tellement complexe, si une partie du cerveau est touchée, elle va, par exemple, n'influencer que sur le langage, par exemple. Donc, quelqu'un va pouvoir tout comprendre avec ses yeux, il va pouvoir, mais il va avoir l'impression, il va vouloir dire poire pour dire vert. Et puis, à l'inverse, il raconte cette histoire incroyable de cette pianiste professionnelle, voilà, qui a eu un traumatisme et qui ne pouvait plus lire de partition. Elle pouvait lire des livres, elle pouvait parler, elle pouvait chanter, elle pouvait tout. Simplement, elle se retrouvait devant sa partition. Rien. Les notes ne signifiaient plus rien. C'est quand même... Et voilà. Et ce type arrive à faire vivre, à faire comprendre des choses à des gens comme moi qui sont des béotiens. Moi, je n'ai vraiment pas inventé le fil à couper le beurre. J'aurais même pu voter contre. Et pourtant, quand je lis Oliver Sacks, parce qu'il a écrit un autre livre aussi sur la musique.
Oui, L'odeur du si bémol.
Non, alors moi, c'est un autre titre. Il est quelque part dans la bibliothèque. Alors, le problème, c'est que selon... Parce que là, ce n'est pas les poches. Si c'est les poches, c'est autre chose. Donc, parfois...
Enfin, quoi qu'il en soit, il parle de la perception du monde. Quand on le lit, on comprend que c'est notre cerveau qui nous donne des informations, mais que ça pourrait être complètement autre chose, le monde qui nous entoure.
Exactement. En fait, ce qu'on croit être normal, il nous fait comprendre que ça ne l'est pas. La perception de l'envers, du droit d'en haut en bas.
Voilà.
On a l'impression qu'on se dit, bah, évidemment, que quand on regarde, le ciel est en haut, la terre est en bas. Normal, je suis un humain, donc le ciel est en haut, la terre est en bas. Et il y a des gens qui se sont réveillés un matin avec le ciel en bas, la terre en haut. Voilà.
Et l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, c'est un type qui n'arrive pas à reconstituer les tout avec les différents éléments visuels. Et donc, il confond les objets et les humains et il prend sa femme.
Oui, et à la fin de la consultation, il a sa femme à côté de lui. Et à la fin de la consultation, il a sa femme et il veut la prendre comme s'il remettait son chapeau.
Voilà. Exceptionnel. Ça fait en fait des romans, ces histoires-là. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est à la base de beaucoup de thrillers et tout ça, où l'héroïne a perdu la mémoire immédiate, etc.
Oui, et puis surtout, c'est qu'il a parlé de la posopagnosie. Qui est le fait de ne pas pouvoir lire les visages. Voilà. Si vous voulez, si je vous revois, je saurai qui vous êtes. Votre visage me dira quelque chose. C'est pas pour rien quand on dit votre visage me dit quelque chose. Eh bien, il y a des gens qui ne lisent pas le visage. Et donc, pour eux, par exemple, pour ces gens-là, ils vont se rappeler de vous parce que, ou de moi, ils vont se dire, ah, c'est celle qui a la petite voix. Voilà.
Philippe Vandel est comme ça.
Exactement. Ouais.
Et alors, vous m'avez parlé des livres qui sont juste à côté de la bibliothèque, qui ne sont pas encore rangés. Vous m'avez parlé d'une histoire de boulanger.
Oui, en fait, notre boulanger, qui est notre voisin, a pris sa retraite. Et mon fils, qui est en terminale, veut aller faire de la boulangerie après. Il rêverait d'aller à l'école Ferrandi. Et le boulanger lui a offert tous ses livres de sa boulangerie. Et là-dedans, c'est comme le livre des recettes des compagnons du Tour de France. Donc, il lui a offert ça. Alors, ce qui est un peu terrible, c'est qu'on se rend compte que, en fait, dans la boulangerie, c'est comme dans tout, il y a des modes. Mmh. C'est-à-dire qu'on se dit...
La mousse au cassis, par exemple,
ces gâteaux-là, c'est complètement ringard.
Ah oui, c'est tout crémeux.
Et en fait, c'est là, on se rend compte que... Ce que je trouve très intéressant, comme toujours dans les livres, c'est que ce qui est magique, c'est que ça fait relativiser énormément de choses. Je trouve que la lecture, elle est indispensable pour moi parce que... non seulement elle me fait rêver, elle me fait partir... mais elle m'autorise. Je trouve que lire un livre, une belle biographie ou une autobiographie ou même je ne sais pas quoi, on se dit « Ah, mais donc lui, il a fait ça. Mais alors, on peut le faire. Ah, mais donc, en fait, moi, je fais partie de ces gens qui doivent s'autoriser, qui ne s'autorisent pas toujours. Et les livres m'autorisent. »
Je ne l'ai pas encore dit, mais moi, j'ai voulu visiter votre bibliothèque parce que je vous connaissais de quand j'avais 13 ans, pardon, que je vous regardais le mercredi après-midi.
Dis-l'homme qui a maintenant déjà des poils blancs au menton. C'est vous dire à quel point ça me vieillit, moi.
mais surtout, ça, on le sait moins, vous êtes devenue éditrice ensuite.
Oui, je suis éditrice de livres pour la jeunesse. J'ai créé ma maison d'édition de livres pour la jeunesse. Et donc, j'ai créé cette maison d'édition il y a 10 ans qui s'appelle les éditions Clochette parce que voilà, je voulais rester dans les livres. Mais pour la jeunesse, parce que j'avais des enfants plus jeunes à cet âge-là.
Oh, vous avez des fleurs pour Algernon.
Oui.
C'est le livre préféré de Bernard Werber, vous savez ça ?
C'est vrai ? Non, ouais. Je ne savais pas.
C'est l'histoire d'un...
Mais je connais, hein. J'ai lu, hein.
Ah ben, j'imagine, puisque vous avez lu tout ce qu'il y a dans votre bibliothèque. Alors, je vous laisse raconter l'histoire.
Oh, c'est une histoire merveilleuse. C'est l'histoire, mais c'est surtout, c'est là où on... Quand on va raconter l'histoire, en fait, on ne va pas raconter le livre, puisque le livre, c'est le style. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que l'auteur se met à la place d'un très simple d'esprit. Donc, au début, il arrive à traduire par l'écriture la simplicité d'esprit. Donc, déjà, rien que ça, c'est hyper complexe. Déjà, bravo. Et donc, c'est un gars, il est hyper simple. On le rencontre. Donc, on se rencontre dans son cerveau. Et en fait, il va faire partie d'un programme où on va lui donner par une technique
scientifique,
ouais. Scientifique, on va lui permettre d'augmenter sa capacité intellectuelle. Et l'auteur, de nouveau, va traduire ça par les mots. Il y a une pièce formidable avec Grégory Gadebois qui a été jouée à Paris là, jusqu'avant le Covid. Et Algernon est un rat. Est un rat qui est meilleur que lui au départ. Vous savez, comme tous ces rats qui vont dans les labyrinthes. Et lui, comme il est très simple d'esprit, il n'y arrive pas. Et donc, au fur et à mesure, il se rend compte qu'il va devenir meilleur qu'Algernon. Mais en même temps, il va se séparer de ses amis. Enfin, voilà, c'est formidable. Voilà,
Est-ce que c'est vraiment un gain d'être plus intelligent? Et c'est ça,
oui,
l'idée.
Oui. Mais Michel Tremblay...
Quand on lit le début, là, c'est bourré de fautes d'orthographe exprès.
Exactement.
Compte rendu R-A-N-D-U...
C'est ça
que l'écriture devient limpide
et puis on ne va pas raconter la fin. Ouais. Mais pour ça, par exemple, il y a un autre, Michel Tremblay, je ne sais pas si vous connaissez.
Alors
Michel Tremblay, c'est un auteur canadien qui a écrit des pièces de théâtre qui ont été un énorme succès au Canada. C'est un méga... lui, par exemple, donc, il écrit à la manière canadienne. Eh bien, lui aussi, par exemple, la grosse femme d'à côté est enceinte. Donc, il est canadien, il parle comme ça.
Ah, il écrit comme
Il écrit comme ça. Et puis, on se raconte, tu parles comme ça. Et puis, je sais le dire quand je l'entends, puis je le sais comme ça. Parce que c'est dit à l'écriture.
Génial.
Et ça, c'est assez génial. Et donc,
ça
tout ça. Donc, là, lui, donc, comme pour Algernon, lui aussi, ça, le peintre d'aquarelle, c'est aussi l'histoire d'un simple d'esprit. Et lui aussi, il arrive à exprimer ça par l'écriture. La parole d'un simple d'esprit. Je trouve ça formidable.
Du coup, quand je le lis, là, je suis en train de lire la première page. Dans ma tête, j'entends l'accent québécois.
Ah bah oui, quand dans les dialogues, quand il dit que, voilà, c'était pas l'année de Gabriel, c'était l'année d'Édouard, son deuxième.
C'est écrit comme ça, quoi.
C'est écrit comme ça.
Phonétiquement, quasiment, quoi. Et il y a la version belge ou pas ?
De quoi ?
De là, avec l'accent belge. Non, vous avez jamais tenté ça ?
Alors ça serait plutôt
belge.
Nadine, mon fils, qui serait la petite fée aux allumettes, hein, la petite fille aux allumettes. Elle a fait un truc, Nadine, mon fils. Il y avait les auteurs belges. Bah, Adeline André, elle est belge et elle n'écrit pas avec l'accent belge, non.
Adeline Dieudonné, non.
Adeline Dieudonné, oui.
Ah, c'est elle. Je croyais que c'était une autre.
Non, Adeline Dieudonné.
Voilà. On peut aller voir la bibliothèque en bas, parce qu'il y a des choses intéressantes aussi.
Oui. Ça n'a rien à voir, là.
Et notamment, alors, il y a des polars.
Oui, j'ai une bibliothèque que de polars. J'adore les polars.
Il y a un arbre à masque ici.
Oui, il y a un arbre.
Dans l'escalier.
Chacun a son masque.
Qui sont accrochés sur la rampe.
Oui, oui, oui.
Donc là, on est passé dans un petit couloir avec des bibliothèques.
Voilà, de mes livres, en fait, des bouquins d'édition. Que je garde. De mes livres que je fais, moi, que j'édite.
Et alors là, il y a un truc exceptionnel. C'est la première fois que je vois ça. C'est toute une bibliothèque de pop-up. Vous vous rappelez ce que c'est que les pop-up ?
Alors, les pop-up, ou en français, livres à système.
Bon, pop-up, c'est mieux quand même.
Les pop-up, en fait, sont, comme le dit le mot pop-up, ils explosent. C'est-à-dire que vous les ouvrez, ils sont en 3D. Après, ce qui est génial, et ce que j'espère avoir dans ma bibliothèque, dans ma collection, parce que ça, c'est une collection, c'est encore autre chose. On n'a pas une collection de livres, on a une bibliothèque. Tandis que ça, c'est vraiment une collection.
Parce que c'est entre livres et objets, c'est pour ça ?
Oui.
Ah oui. Ah oui, non, c'est que c'est carrément un truc. Ouais.
Il n'y a que des premières éditions.
Là. D'où ça vous vient, ça ?
Je sais pas. J'ai découvert ça quand mes enfants étaient petits, en ont reçu un. J'ai trouvé ça génial. J'ai commencé à chercher. Et quand j'ai fait un peu de théâtre, j'étais en tournée. J'en ai acheté des anciens, parce que vous voyez, il y en a des vieux. Et quand ils sont anciens, donc on estime que ça s'appelle des livres à système. Donc voilà, contes à relief, Vous voyez, c'était ouais,
très
comme
simple,
ça que
avec le chaboté.
Et le chaboté.
On voit les personnages qui sortent.
Qui sortent.
Du
c'est
livre.
Chaque fois du livre. Alors le plus connu, c'est un mec qui s'appelle Sabouda. Regardez.
Il y a des stars du pop-up.
Quoi. Ah oui, évidemment. Vous savez, il y a un truc qui est terrifiant, c'est qu'en littérature jeunesse, par exemple, il y a des stars qui sont strictement inconnues, sorties du monde des bibliothécaires, des profs et des libraires.
Nicolas Maury, des gens comme ça.
Je sais pas qui c'est.
Voilà.
mais sûrement. Et c'est terrible parce que pour ces gens-là, c'est comme si il y avait jamais, il y a jamais d'interview sur eux, il y a jamais d'article, alors que ils ont une responsabilité incroyable puisque c'est eux qui vont faire aimer la littérature et la lecture aux enfants en espérant que ça les continue en tant qu'adultes. Et tout le monde s'en fout.
Alors, tout le monde s'en fout, ça marche bien aussi la littérature jeunesse.
Évidemment, mais tout le monde s'en fout. On a envie d'être reconnu dans ce métier.
Nous, on a une chronique jeunesse dans notre émission.
Eh bien, vous êtes parfait, mais vous avez la gommette.
Magicien d'Oz.
Voilà, par exemple, regardez, c'est beau quand même, hein. Et donc, il y en a partout. Oui, évidemment, c'est pas très radiophonique.
Il y a la maison qui sort avec les sapins autour
totalement.
Et tous les personnages dans le jardin.
Et donc là, c'est le magicien d'Oz. Donc ici, il y a et Sabouda, regardez la cité
Ovoz
avec les lunettes. Ils fournissent même les lunettes
pour regarder en 3D.
Pour regarder, peut-être pas en 3D, mais pour regarder en vert, puisque il faut pouvoir regarder. Est-ce que vous savez pourquoi cette fameuse cité d'Oz est verte?
Non.
Parce qu'en fait, tout le monde connaît le film et pas tellement le livre. Mais en fait, c'est très intéressant parce que les trois personnages, le lion, l'épouvantail et le Tin Man, l'homme en conserve, représentent les trois vagues d'immigration. Le lion, c'est l'anglais, the English guy, celui qui prend le thé. C'était première vague d'immigration, c'était les anglais. Ensuite, il y a, je ne sais plus maintenant, si c'est l'homme en fer blanc. Chez nous, moi j'ai joué en comédie musicale, c'était un noir. Et c'était la vague d'immigration noire. Et l'épouvantail, c'était la vague d'immigration italienne.
D'accord.
Et la fameuse cité d'Oz, verte, la cité verte, c'est la couleur de quoi le vert? Du dollar.
Ah. Tout le monde se dirige vers le dollar.
Elle arrive dans la cité du dollar, dont elle va vouloir s'échapper.
Ah, les billets
verts. Vous voyez ? Et en fait, le livre a totalement laissé ça de côté. Évidemment, c'était trop politique. Et ce qui est quand même terrible quand on y réfléchit, c'est que c'est quand même home sweet home. Rien n'est mieux que chez soi. Ben, pourquoi ? C'est bien d'avoir vu le monde aussi. C'est bien d'avoir visité. En même temps,
vous tournez les pages et il y a des choses incroyables qui en sortent. Hein.
Oui.
Là, il y a une sorte de grand roue qu'on peut faire
oui,
tourner.
C'est comme
même,
mais non, c'est pas une grand roue, c'était la fameuse montgolfière.
Ah, d'accord.
Du magicien d'Oz, avec lequel il s'échappe du pays d'Oz.
Incroyable. Alors, à quel moment on n'est plus dans un livre, en fait?
On n'est plus dans un livre quand il n'y a plus de pages à tourner.
Mais là, s'il n'y a pas de texte ni rien...
Il y a des pages.
Ouais, ouais.
Bah, ça s'appelle book.
Oui. Non, mais il n'y a pas de jugement de toute façon. Mais...
Oui, non, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que tant qu'il y a des pages. Et à l'inverse, est-ce que un Kindle, c'est
exactement.
Un livre? Non.
Bonne réponse.
Alors, c'est pas un livre, mais à un moment donné, j'étais très perturbée. Quand on pensait qu'il y aurait l'avènement incroyable du Kindle du livre comme ça.
Triste.
Oui, j'avais peur. Je me suis dit, mais. Ça va être qu'est-ce qui va se passer de tous nos livres, ça va être dématérialisation, etc. Et puis en fait, je me suis dit, mais attends, on s'en fout du support à la limite tant que les histoires sont racontées. En fait, c'est toujours, à un moment donné, on est content de ne plus avoir le parchemin quand même, on est content de ne plus avoir les rouleaux. Bon, un jour, il y a eu des pages à tourner. Voilà, l'important, c'est qu'on continue à raconter des histoires. Après, il y a quand même un truc auquel les gens ne pensent pas. C'est que votre livre Kindle, etc., vous savez qu'il y a des programmes maintenant que les éditeurs peuvent avoir. Ça, c'est très intéressant. Ça va être dramatique pour les auteurs.
Qui créent des histoires?
Pas du tout. Non. Vous achetez le nouveau Goncourt ou je ne sais rien, n'importe quel prix, n'importe quel livre. Vous l'avez acheté sur Kindle ou sur un truc comme ça. Eh bien, l'éditeur de ce livre-là, il saura à peu près jusqu'à quelle page vous êtes allé. Et il saura si, en fait... Le Goncourt qui a été... Souvent, par exemple, les grands prix, c'est du snobisme. C'est facile, vous l'offrez à Noël, c'est pas pour rien que ça sort au mois d'octobre.
Ou de la facilité, c'est qu'on l'offre.
C'est une sorte de facile, on est rassuré par la presse, etc. Ouais. Mais il y a beaucoup de ces livres qui peuvent parfois être chiants. Ouais. Et donc, l'auteur du Goncourt, qui a eu beaucoup de sous parce qu'il a gagné beaucoup de sous, parce qu'il en a vendu beaucoup, si son éditeur se rend compte que la plupart des lecteurs se sont arrêtés à la page 120, alors qu'en fait, il en fait 250.
Terrible. Le prochain...
Eh ben, lui, quelque part, il sait qu'en fait, les gens ont lâché. Donc, d'un côté, pour les auteurs, c'est terrifiant, parce que ces livres-là, on pourra savoir si vraiment le lecteur a été accroché jusqu'au bout. Et deuxièmement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au moment du big data, du grand truc, si vous n'avez plus que des livres qui sont sur un support
électronique,
vous êtes fiché, entre guillemets, on sait ce que vous lirez.
On regarde lire.
Tant qu'on s'en fout, tant qu'on est dans un monde où tout le monde peut lire tout ce qu'on veut, ce n'est pas un problème. Jean-Christophe Ruffin a écrit un livre formidable qui s'appelle Globalia, là-dessus. Mais alors là, il l'a écrit il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il a imaginé un truc, on y est. Et il imagine donc un monde où vous devez être évidemment tous sur Internet et on vous punit, on vous interdit rien. Évidemment, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est toujours le politique. Tout va bien, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vous coupe Internet. Et il n'y a plus de papier. Et le gars est obligé de se dire, purée, mais si j'ai plus d'ordinateur, comment je fais pour exprimer ma pensée? Et il doit retourner dans un endroit où il y a un endroit où il y a du papier et des bics. Enfin, des bics, des marqueurs, quoi. Oui. Voilà. Donc, je trouve qu'il faut absolument... Voyez ma bibliothèque. Personne ne sait ce que j'ai dans ma bibliothèque.
Six mois.
Même pas tout. Vous n'avez pas eu le temps. Et ça, c'est important.
Eh bien, oui. Absolument. Je sais même qu'il y a un pop-up érotique.
Yes.
C'est incroyable, ça.
Ouais.
Ça s'appelle Je t'aime.
Ça s'appelle Je, G-E-U-X.
Et donc, c'est
t'aime.
Un pop-up, mais avec des trucs un peu olé-olé.
Voilà, exactement. Voilà, voilà. Il y en a pour tous les goûts. Et voilà, il y a ça. Mais il y en a d'autres. Hein. J'en ai un autre, un pop-up olé-olé aussi, avec des dames qui soulèvent leurs jupes, on voit des choses comme ça.
Bon, bah merci beaucoup, Maureen Dor.
C'est moi qui vous remercie.
Pour cette visite.
J'ai beaucoup parlé.
Danse.
Hein.
Merci beaucoup.
De retour en studio, et je rappelle que le dernier livre édité par Maureen Dor est celui de François Hollande. Un roman jeunesse, oui, ça s'appelle Loretta, chez Glénat.
Et vous, Philippe Delerme, elle est comment, votre bibliothèque en Normandie? C'est gigantesque ou au contraire, vous triez beaucoup pour garder que l'essence?
Il y a des livres un peu dans toutes les pièces, en fait. Dans mon bureau, c'est un bordel inimaginable avec des piles immenses, avec beaucoup de livres d'ailleurs que j'ai écrits sous différentes formes. Puis alors après, quand on passe dans le petit salon, on s'installe pour devant le feu de cheminée. Alors là, c'est un petit peu une bibliothèque qui est assez grande, avec classée par favoris en fait. C'est une espèce d'équilibre avec Martine. Souvent, on en est même, parfois avec des différences. Mais on les regroupe. Il y a beaucoup de Le Clésio, beaucoup de Christian Bobin, beaucoup de livres qui ont compté pour nous. Et après, il y a une autre pièce, Salle à manger, où il y a des livres de littérature aussi, beaucoup, puis aussi beaucoup d'albums. On adore les albums de peinture, Donc, et on peut pas dire qu'il y a une pièce. C'est toute la maison un petit peu qui est dévolue aux livres. Puis au grenier, alors il y a toutes les BD. C'est un peu un trésor de bande dessinée.
M'en doutais un petit peu. J'irai voir un jour si vous voulez bien.
Ah bah avec plaisir.
Allez, ça marche.
Europe 1.
Dans un instant, plein d'autres livres, 3 en fait. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue. Il est l'heure de rendre visite à un libraire, une libraire, direction Saint-Mandé, à la librairie Parole de Marie-Ève Charbonnier.
Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. On est là pour deux coups de cœur. Et alors, j'aime bien, c'est facile ici, parce que sur les livres que vous aimez bien, il y a, comme chez certains libraires, une petite fiche, une petite étiquette avec la critique manuscrite de ce qu'en a pensé le libraire.
Oui, on aime bien faire ça. Et c'est vrai que ça aide beaucoup les clients pour s'orienter dans ce foisonnement de livres.
Alors, on commence par lequel? La dixième muse, peut-être?
Alors, La dixième muse, un roman très, très étrange d'Alexandra Kozlik, qui est publié aux Forges du Vulcain et qui raconte l'histoire d'un homme, ça se passe de nos jours, qui se retrouve pour des raisons X au cimetière du Père-Lachaise et par hasard devant la tombe de Guillaume Apollinaire. Et par hasard aussi, il se met à grimper à l'arbre qui est au-dessus de cette tombe et un phénomène un peu surnaturel. Il va se prendre une passion énorme et étrange pour ce poète. Et il va s'intéresser à sa vie et ça va bouleverser la sienne. Et le récit progresse entre sa vie à lui et puis des personnages qui ont connu Guillaume Apollinaire. On apprend plein de choses. Il y a une dimension un peu fantastique et on comprend seulement à la fin pourquoi le livre s'appelle La dixième muse. Il y a une raison. Voilà.
Vous savez qu'Apollinaire, c'est le poète d'Europe 1. On est juste à côté du pont Mirabeau.
Eh bien voilà, donc il faut absolument que vous le lisiez. C'est vraiment très étonnant et très intéressant comme livre, très bien écrit.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Et nos amours.
Alors, deuxième coup de cœur.
Alors, deuxième coup de cœur, on va voyager avec Les pianos perdus de Sibérie de Sophie Roberts, qui est publié aux éditions Calman Lévy. C'est pas un roman, c'est un récit, même s'il y a des dimensions romanesques qui sont vraiment présentes. L'autrice, il y a quelques années, se retrouve en Mongolie. Elle est déjà très attirée par la Sibérie. Elle se retrouve en Mongolie, donc frontière de la Sibérie, chez un ami qui accueille une pianiste professionnelle. Il organise des concerts et c'est elle qui joue. Et elle se prend d'amitié pour cette jeune femme et le piano sur lequel elle joue n'est pas assez bon. Donc leur ami commun dit « Sophie, il faudrait que tu ailles à la recherche de ces pianos perdus de Sibérie ». Donc elle commence à intriguer, en fait. Elle fait des recherches et elle se rend compte qu'il y a énormément de pianos qui ont comme ça traversé la Russie d'ouest en est, se retrouvant dans des endroits étranges, mais des vraiment très très beaux pianos. Et donc du coup, en 17 chapitres, elle va nous raconter l'histoire de la musique et du piano en Sibérie. Alors, on va croiser Catherine II de Russie, on va croiser les révolutionnaires, évidemment, le groupe des décembristes, on va voyager dans les goulags. Et en fait, au-delà de l'image de la Sibérie qu'on peut avoir, qui est assez froide et qui fait un peu peur, elle va nous présenter tous les gens qu'elle croise qui sont des gens adorables, corps sur la main. Et d'anecdote en anecdote, en fait, c'est vraiment une fresque du piano qui va être dressée. Et c'est, voilà, on voyage, c'est magnifique.
Alors, je récapitule La dixième muse d'Alexandra Koslik, Les pianos perdus de Sibérie de Sophie
Roberts.
Voilà. Et il nous reste un peu de temps pour un troisième.
Eh bien, ça tombe bien parce que je vais vous parler de mon dernier coup de cœur, Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andrea. Qui signe là son troisième roman, publié à l'Iconoclaste. Et alors là, on est dans le romanesque à l'état pur. Encore une histoire de piano, mais c'est vraiment le hasard. Un homme joue du piano dans les gares, les aéroports, comme il y a souvent des pianos publics. Et c'est toujours du Beethoven qui joue. Et quelqu'un, un jour, l'interroge et lui demande pourquoi. Et commence à raconter son histoire. Et là, il va nous entraîner 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, dans un orphelinat. Il se trouve qu'il a perdu ses parents, sa sœur, dans un accident d'avion. Il nous raconte pourquoi. Il prenait à l'époque des cours de piano avec un pianiste célèbre, donc c'était un musicien averti, que du Beethoven. Et en fait, il se retrouve dans cet orphelinat, seul, et les diables et les saints, parce que, évidemment, l'abbé qui dirige cette pension de main de fer va lui faire bien des misères. Il va trouver des amis sûrs et l'amour. Et c'est ce qu'il va nous raconter dans ce livre.
Un mot sur l'Iconoclaste. Ils ont toujours des couvertures incroyables. Pour vous, c'est super. Pour les libraires, c'est quand même joli d'installer ces livres-là aussi.
Alors, c'est très joli. C'est vrai que leurs couvertures déjà se reconnaissent facilement parmi certains qui sont un peu plus neutres, on va dire. Et là, cette couverture où on voit deux jeunes garçons s'élever dans une espèce de clarté lumineuse, je trouve qu'elle dit beaucoup du livre aussi. Voilà. Et c'est vrai que ça attire.
Jean-Baptiste Andrea, Des diables et des saints à l'Iconoclaste. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève.
Merci, Nicolas.
À bientôt.
Europe 1.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
Il était une fois.
Il était une fois.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, le voici, le voilà, on retrouve Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. Salut Victor.
Salut Nicolas.
Alors aujourd'hui, super concept, très très belle idée.
Ah ouais.
Le livre s'appelle « Tu n'es pas belle, tu es pire » de Morgane Pellenec.
Oui, je suis tombé amoureux de ce livre tout simplement. C'est un recueil des plus belles lettres d'amour d'enfant, Nicolas. Et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a d'abord ceux très nombreux. Moi qui passe du coq à l'âne en une phrase, à cet âge-là, l'amour est aussi important qu'une séance de poney. Oui, oui, je vous lis la lettre, Nelson, je t'aime, mais ce n'est pas tout. Je suis allé faire du poney à la ronce chez ma tati, Lola, c'est terminé. Il y a ceux aussi qui ne savent pas prendre des pincettes, comme Marion. Cher Maxime, moi aussi je t'aime, mais pour amitié. Avec toi, ça va pas plus loin, mais t'es un super pote. J'espère ne pas te faire de peine. S'il te plaît, ne pleure pas, Marion. Compliqué pour Maxime, là. Il y a aussi ceux qui font des super promesses. Cher Sébastien, je t'aime beaucoup. Alors arrête de m'embêter. Il faudra qu'on se marie. Je t'aime, Émilie. Et puis, bien sûr, il y a les fleurs bleues. Julia, je t'offre mon cœur comme je t'offre la flamme qui est en moi. Wow. La nuit, quand je me réveille, tu es ma lumière. Wow. Je veux te dire que tu n'es pas belle, tu es pire, Lies.
J'en ai un petit là, 9 ans. Jolie que tu es, je t'ai trouvée belle. Tu étais parfaite, tu m'as plu.
Voilà.
C'est magnifique.
Ouais, non, c'est super.
C'était quoi le point de départ de cette idée géniale ?
En fait, Morgane Pellenec est journaliste. Il y a 2 ans, en fouillant dans sa boîte à souvenirs, elle a retrouvé un trésor qu'elle avait presque oublié. Une lettre envoyée par son premier amour de colonie de vacances. La suite, c'est elle-même, Morgane Pellenec, qui nous la raconte.
Je suis retombée sur une lettre que m'avait écrite mon amoureux de colo quand j'avais 11 ans. Et c'est une lettre qui m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, il m'écrivait qu'il avait cassé avec Lucille parce qu'il n'était pas trop pour la polygamie et que finalement, il m'avait choisi et qu'il m'aimait de tout son cœur et tout ça. Et j'ai trouvé ça super drôle et en fait, j'ai eu envie de lire d'autres lettres. Donc j'ai commencé à demander autour de moi, mais je me suis rendu compte que les gens soit n'avaient pas reçu de lettres, soit ne les avaient pas gardées. Et du coup, après, je suis passée par les réseaux sociaux et j'ai reçu une petite centaine de lettres.
Mais voilà, de cet amoureux non polygame est née cette superbe histoire. Elle a choisi, Morgane Pellenec, méticuleusement les plus rigolotes, celles qui nous font craquer aussi. C'est comme une Madeleine de Proust, ces lettres enfouies dans un vieux tiroir, une boîte à chaussures. Pour ma part, j'ai tout gardé, tout. Mes cartes postales signées à la fin d'un génial big bisou bien baveux, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Avec un cœur sur le i.
Exactement, il y a un grand B qui prenait toutes les premières lettres. Mes premières lettres d'amour où je recevais autant de bisous qu'il y a de grains de sable dans le désert, ça aussi je m'en souviens très bien. Bref, faites-les lire à vos enfants, ça les fera rire, c'est sûr. Et surtout un conseil, ne jetez pas ces merveilles, vous serez ravis
de
les retrouver dans 20 ans.
On peut les faire lire, on peut les garder pour soi
très
aussi.
Très précieusement, exactement. Mais en tout cas, il faut surtout pas les jeter, puisque la conclusion quand même du livre de Morgane Pellenec, c'est que la plupart des gens les jettent, ou en tout cas ne les gardent pas précieusement. Et c'est
tu
bien
n'es
dommage.
Pas belle, tu es pire. Les plus belles lettres d'amour d'enfant de Morgane Pellenec, c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Merci beaucoup Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Et vous Philippe Delerme, j'allais vous demander quel est le premier roman que vous avez lu. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Le Grand Maulne. Quel est l'autre, le deuxième roman que vous avez lu ? Quel est votre rapport avec la littérature jeunesse, tout simplement ?
C'est vrai que je pense que ces livres écrits pour la jeunesse, ils comptent tellement dans l'imaginaire, pour la vie comme ça, que le premier qui a compté pour moi, Le Champion, de Paul Bernat, c'est l'histoire d'un garçon qui est assez malingre, qui est méprisé un petit peu par ses frères et sœurs et puis par ses condisciples à l'école, parce qu'il est vraiment un peu rachitique et pas doué. Et tout d'un coup, en allant passer des vacances dans un petit coin de campagne, il prend goût au fait d'apprendre à nager et petit à petit, il devient un grand champion de natation. Et c'est un livre qui m'a infiniment marqué. C'était déjà aussi le début du goût pour le sport et puis vécu aussi avec une difficulté, une attente... Et après, tout change. Et c'est vrai que moi, j'ai un grand souvenir de cette époque où quand j'étais en 6e, 5e, j'avais un petit peu d'argent de poche et je m'arrêtais à la librairie. Et puis, il y avait une grande librairie un petit peu à l'ancienne avec une petite échelle pour monter sur les rayonnages. Et puis, il y avait le grand mur Bibliothèque Verte, le grand mur Rouge et Or, le grand mur Idéal Bibliothèque. Enfin, c'était les collections dévolues à la jeunesse. Et souvent, en fait, je choisissais en fonction de la couverture, de l'illustrateur, bien sûr du titre. Parfois, il y avait des arnaques, vous voyez, une scène de football, et puis en fait, il y avait 2 pages sur le foot dans le bouquin. Bon, mais ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que ça compte infiniment oui, pour les enfants. Oui.
La vie en relief, c'est votre nouveau livre qui est assez exemplaire de votre œuvre. Si on veut savoir qui est Philippe Delerme et qu'on ne vous a jamais lu, La vie en relief, je trouve que c'est pas mal, ça résume bien. Merci beaucoup d'être venu, Philippe Delerme.
Merci à vous, toujours un grand plaisir.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.